et Péridu.
Merci. Merci de votre accueil. Si j'ai bien compris votre sujet, c'est un sujet, comme je le disais, je crois que c'est à vous, hein, vous m'avez écrit, c'est un sujet que j'ose pas vraiment aborder n'importe où parce que immédiatement, c'est le désespoir qui apparaît complètement. Alors, on est foutu, on peut rien faire. À quoi on va servir dorénavant? Pourquoi? Parce que finalement, notre vocation, je parle en tant que chrétien catholique, hein, on est bien d'accord, on est entre nous. Hein, notre vocation, c'est la mission. J'allais dire qu'on est fait pour ça. Vous serez pécheur d'homme, etc. Enfin, vous connaissez mieux que moi tous les textes. Donc, en réalité, on a une religion qui est vouée, au sens de la vocation, à se répandre partout. À prêcher, donc, parce que pour se répandre, souvenez-vous quand même que évangile signifie bonne nouvelle. Donc, la mission, ça veut dire témoigner jusqu'au bout du monde. Et d'ailleurs, même les premiers disciples sont allés très loin, pour certains, comme vous savez. Et très vite, les disciples, au bout de très peu d'années, sont partis dans des directions incroyables pour l'époque. En tout cas, c'était sûrement très périlleux et très courageux. Alors, il faut d'abord se demander pourquoi nous avons cette vocation. Pourquoi ? C'est quand même très important. Ça a été bien expliqué par le pape précédent lorsqu'il était venu parler aux Bernardins. Il avait parlé, si vous vous souvenez, de la vérité. En réalité, notre message est compris comme une vérité. Et ça, c'est pas anodin. Parce que tous les messages ne sont pas compris comme des vérités. C'est assez particulier chez les juifs et les chrétiens. Personnellement, je ne sépare pas les juifs et les chrétiens. Je parle plutôt du judéo-christianisme parce que les juifs sont tellement nos pères par le sang, enfin par le sang, par le message, que finalement, je ne sépare pas vraiment. Donc, une vérité, ça signifie un message qui est universel, c'est-à-dire qui s'applique à tous. À tous dans le temps et à tous dans l'espace. C'est quelque chose qui vaut pour tout le monde. Alors, vous allez peut-être me dire, bon, finalement, tout ce que l'on dit, ça doit sonner comme une vérité. Non, pas du tout. La plupart des peuples, enfin tous les peuples, à vrai dire, sauf les juifs et les chrétiens, énoncent des messages, qui sont très importants aussi, hein, bien sûr, je ne méprise pas, qui sont des mythes. Et les mythes sont idiosyncrasiques, c'est-à-dire qu'ils sont particuliers. Chaque peuple a son mythe, chaque région a son mythe, chaque ville a son dieu. Souvenez-vous, à l'époque de Paul, quand Paul dit bah, « ici il y a ce dieu, ici il y a même une stèle au dieu inconnu ». Enfin, chaque ville a son dieu. Chaque message est particulier, il est fait pour un peuple particulier. Et donc, il n'a pas du tout, de manière générale, n'a pas du tout une vocation universelle. D'ailleurs, c'est la seule raison, c'est pour cette raison que nous avons un message que nous pensons universel, que nous prétendons universel, on peut dire la chose comme on veut, que les chrétiens, dès le départ, ont été persécutés. Et il ne faut pas croire que les chrétiens, sous Dioclétien par exemple, ont été persécutés parce que Dioclétien croyait en d'autres dieux et parce que les dieux se télescopaient, pas du tout, parce que les Romains avaient l'habitude d'avoir un certain nombre de dieux tous différents. Il y en avait un qui préférait Mars, l'autre qui préférait un autre. Et puis chaque ville, donc on avait un, c'était pas le problème. Mais les chrétiens étaient persécutés au départ parce que le dieu d'Israël et le nôtre est un dieu jaloux. Comme vous savez, c'est écrit dans la Bible, un dieu jaloux. Mais jaloux, au sens véritablement étymologique de jaloux, c'est-à-dire non pas un dieu envieux, attention, hein, on dit toujours jaloux pour envieux, c'est pareil. Jaloux, ça veut dire qu'il veut garder pour soi, hein. Ça veut pas dire qu'il veut ce que les autres ont. Le dieu d'Israël est un dieu jaloux, c'est-à-dire un dieu qui ne tolère pas que les autres soient eux aussi adorés. Un dieu qui veut être le seul à être adoré comme dieu, qui veut être le seul dieu, qui annonce qu'il est le seul Dieu, qui réclame, si vous préférez, toute la prière pour lui seul. Et ce qui montre bien, c'est disons que c'est une autre manière de le montrer, qu'il s'agit là d'une vérité et non pas d'un mythe. Alors, tout cela correspond évidemment avec la mission. Donc la mission consiste à apporter, partout où on peut évidemment, une vérité qui est encore inconnue par ceux qui n'en ont pas entendu parler. Je précise en passant, puisque c'est quand même, disons, l'actualité, que le sens de la mission, chez nous, diffère de celui de l'islam. Pour l'islam, comme vous le savez sans doute, tout être humain, par nature, est musulman. C'est-à-dire que tout non-musulman est un hérétique. Ce qui est assez différent de la manière que nous avons, nous, chrétiens, de voir les choses. Pour nous, il s'agit au contraire de dévoiler une nouvelle, aletheia, la vérité, aletheia en grec, c'est-à-dire le dévoilement, retirer un voile, une nouvelle que les autres ignorent. C'est le sens de l'évangile. Évidemment, c'est assez différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Alors, si on a dit ça, rapidement, ça signifie que l'évangile, en tant qu'il est bonne nouvelle, et en tant qu'il est vérité, n'a aucun sens s'il reste cantonné dans le cercle des fidèles qui le garderaient pour eux seuls. Hein. Bien au chaud, pour ne pas être embêté par les autres, et puis aussi pour ne pas embêter les autres, parce qu'il y a ça aussi, surtout maintenant. À partir du moment où l'évangile reste dans un cercle cantonné, comme par exemple le nôtre dans cette pièce, eh bien il perd sa définition, tout simplement, je crois. Hein. C'est pour ça, par exemple, que Simone Veil, qui était juive, comme vous le savez, je ne parle pas de la femme politique, qui ne m'intéresse pas, je parle de la philosophe, reprochait aux juifs leur particularisme. Elle disait, les juifs sont vraiment trop particularistes, ils ont tendance justement à conserver leur message pour eux-mêmes. Comme vous le savez, c'était une tendance propre aux juifs, et cette espèce d'universalisme s'est surtout développée avec les chrétiens. Alors, cela étant dit, très simplement, et juste pour commencer, nous trouvons à une époque, en tout cas en Occident, où le christianisme est toléré, à condition, mais à cette condition, qu'il ne se donne pas pour but la mission. Et ça, c'est quelque chose que vous devez ressentir, je suppose, dans votre vie de tous les jours, comme moi. Et ça nous place dans une situation tout à fait inconfortable, parce que justement, nous ne sommes pas faits pour ça. Ou, si vous préférez, ça nous place dans une situation dramatiquement contradictoire. C'est justement pour cela que je disais à la personne qui m'a invité, c'est une chose pratiquement dont je n'ose pas parler devant un auditoire normal, parce que les gens quasiment sortent leur mouchoir en disant « bon ben, on est mort tout de suite, quoi ». J'ai autour de moi quelques exemples, mais je vous en cite juste un, mais on pourrait en citer plusieurs tout de suite. Plusieurs jeunes femmes décident de monter une association pour s'occuper des mères de famille en détresse. Il y en a beaucoup. Il y en a toujours beaucoup, du reste. Et donc, installent un local, un système pour donner des vêtements, pour discuter, pour écouter, surtout. Alors, on les accepte dans la ville où elles s'installent. On leur donne un local, on met des annonces pour que les gens donnent des vêtements usagés ou tout ce que vous voudrez, à condition qu'elles ne soient pas catholiques. Alors, si elles avouent qu'elles sont catholiques, alors à condition que vous ne disiez surtout pas que vous êtes catholique. Vous êtes peut-être catholique, mais vous faites au moins comme si vous n'étiez pas. Parce que sinon, non, ça ne marchera pas. Alors, je suis sûre que vous avez connu des exemples comme ça. Hein. Parce que les exemples sont vraiment légion en ce moment en Occident, bien sûr, pas en Afrique, pas en Corée du Sud, mais en ce moment en Occident. Donc si une organisation charitable se monte, elle est aussitôt suspecte si elle est catholique. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on déteste les catholiques? Je ne crois pas. Il ne faut pas non plus que nous soyons paranoïaques. Parce que d'abord, ça n'arrange rien d'être paranoïaque. Ça fait plutôt qu'exacerber les problèmes. Et puis, je pense que c'est pas vrai, que nous sommes détestés. Mais on nous suspecte, et pas complètement à tort, il faut bien le dire, de faire la charité pour pouvoir en même temps convaincre. C'est-à-dire qu'on a la vieille image, qui n'est pas fausse, hein, il faut essayer d'être honnête avec nous-mêmes, du missionnaire qui donne le baptême et le vaccin en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? On vous donne le vaccin, mais vous prenez le baptême. Alors, bien sûr, ce que je dis est un peu gros, mais vous comprenez ce que je veux dire. On nous soupçonne de ça. Donc, on soupçonne ces jeunes femmes en question de vouloir peut-être essayer de convaincre ces jeunes femmes de ne pas avorter, qui sait, des choses comme ça, voilà. Alors, il s'est passé quand même quelque chose pour que nous en soyons là, parce que vous, à votre âge, vous n'avez peut-être connu que cela, mais moi j'ai connu des situations très différentes. Il y a une cinquantaine d'années, une quarantaine d'années, la situation n'était quand même pas à ce point, hein, aussi complexe et aussi difficile à vivre pour nous. Alors, le christianisme, il faut le dire, a régné pendant 16 siècles. J'estime que c'est à partir de Théodose, c'est pas vrai que c'est Constantin, c'est pas Constantin qui installe le christianisme. Constantin, il ne fait que libéraliser les choses et empêcher la persécution, ce qui est déjà énorme. Mais c'est tout. Le véritable royaume catholique, si on peut parler de royaume à une époque où il s'agit d'empereurs romains, c'est un peu différent, commence avec Théodose à la fin du IVe siècle. Et Théodose est quelqu'un qui va instaurer véritablement les comportements catholiques et les imposer. Donc c'est pas du tout comme Constantin qui acceptait, tout simplement. On peut estimer, je crois, même si je suis prête évidemment à discuter avec des historiens qui connaîtraient les choses mieux que moi, que le christianisme a littéralement régné, dominé, pendant 16 siècles. Dominé. C'est-à-dire qu'il a été lié au pouvoir depuis Théodose, et cela d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il avait plus ou moins de pouvoir selon, naturellement, les pays, les époques, les guerres et tout ce que vous voudrez. Il a régné sur les âmes. Ça, c'est une certitude. Et cela, pendant tous ces siècles, et il a régné aussi sur les corps. Il a dominé les corps de façon parfois, d'ailleurs, assez violente. Il a accompagné les conquêtes politiques. Il a déployé la mission, la fameuse mission, dans des terrains connus. Parfois d'une manière absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, le film Silence, c'est extraordinaire, hein, de penser. Et le film Silence n'a pas été inventé de toutes pièces. Je veux dire, ce sont des choses qui ont existé d'une manière ou d'une autre. C'est absolument impressionnant. Penser que ces deux jeunes hommes partent comme ça dans des terres complètement inconnues, des endroits mortifères pour eux, et finissent évidemment très mal. Donc tout ça s'est passé. Ça s'est passé de multiples fois. Alors le problème, c'est que il est impossible que des humains que nous sommes et que sont les prêtres, car les prêtres sont des humains, comme les autres, il est impossible que des humains ne profitent pas abusivement d'une prédominance aussi longue et aussi importante. C'est une chose impossible, qui n'a jamais existé dans l'histoire et qui n'a pas existé non plus pour nous. Pourquoi ? Parce que nous autres catholiques, nous sommes des humains comme les autres, et je pense qu'il est toujours mauvais d'être trop longtemps le plus fort, ce qui nous est arrivé. Je pense qu'un humain, ordinaire, ne résiste pas. Hein. Il devient rapidement un despote, et c'est finalement ce qui s'est produit. Il abuse de son autorité, c'est finalement ce qui s'est produit. Bon, je ne parle même pas de l'Inquisition, de choses comme ça, mais prenons simplement, enfin, moi je suis grand amateur de romans, lisez les romans du 19e siècle, les romans anglais, américains du 19e siècle, qui sont très nombreux et souvent très beaux. Vous voyez à quel point la religion avait une emprise sur les gens absolument incroyable. Et à mon avis, excessive. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, cette vérité, entre guillemets, qui régnait sur l'existence des humains, notamment par la peur de l'enfer. Hein. Combien de personnes dans tous ces romans sont en train de mourir et disent « Le ciel, je n'en veux pas, ce que je veux surtout, c'est je ne veux pas l'enfer ». Donc la peur de l'enfer était extrêmement importante, la crainte de l'excommunication était extrêmement importante, d'ailleurs tellement importante que l'Église parfois arrivait à imposer des choses invraisemblables, comme par exemple interdire la guerre le dimanche. Enfin, c'est inouï quand vous voyez qui étaient les hommes de guerre à l'époque, des gens complètement brutaux. L'Église finissait par interdire la guerre certains jours par la crainte de l'excommunication. Alors, bien sûr, donc c'était des bonnes choses aussi en même temps, mais dans un très joli petit château à côté de l'endroit où je passe mes vacances, absolument ravissant, on a décidé, il y a une quinzaine d'années, de changer les planchers, qui étaient complètement vermoulus. Et donc on a ôté tous les planchers qui avaient été faits en 1840-1850. Et c'était un menuisier qui tout seul avait fait ses planchers, vous savez, les menuisiers ont toujours un crayon à la main. Et ce type, qui était assez cultivé, il faut le dire, avait raconté ses mémoires dans le dessous du plancher. Alors il écrivait « Cher ami lecteur », et alors on a des lettres absolument immenses, tout le plancher du château. Incroyable. Vous pouvez googliser ça, vous allez trouver. Et alors donc c'est un type, donc un type qui vivait il y a presque 200 ans, c'est extraordinaire, dans un tout petit village des Hautes-Alpes, le château s'appelle Picontal, et il vivait bien ce type, il travaillait 16 heures par jour évidemment, mais comme à l'époque, mais il vivait pas mal, il avait une femme, des enfants. Il avait un seul problème, il avait un problème vraiment gravissime, c'est que sa femme allait se confesser au prêtre du coin, et le prêtre lui expliquait combien de fois il fallait coucher avec son mari, et comment, et pas comme ça, etc. Et la femme revenait en disant à son mari, le prêtre a dit ça. Et le mari n'en pouvait plus. Et alors il raconte tout ça, et comme il le raconte sous le plancher, qui sait que personne ne va le lire de son vivant, vous voyez, il s'écoulera des décennies avant, et c'est effectivement le cas, il raconte absolument tout, c'est assez extraordinaire, mais si vous voulez, ce qui m'intéressait là-dedans, pourquoi je vous en parle, c'est que finalement, le clergé de l'époque, il devait être un prêtre de campagne très simple sans doute, avait une puissance sur la vie des gens qui était inouïe. J'ai vu ça, par exemple, chez des Québécois, des gens que je connais bien, qui, comme vous savez, dans les années 60, ont flanqué en l'air toutes les structures ecclésiales. D'ailleurs, la plupart des prêtres sont tous partis à ce moment-là, sont devenus psychologues, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Hein. Ça allait pas mal, un psychologue, quand vous avez été prêtre, c'est... Ils ont tout flanqué en l'air. Pourquoi ? Parce que les prêtres avaient pris une puissance telle sur les familles, sur les gens, sur leur manière de vivre, que c'était devenu carrément insupportable. Alors, ce que je veux dire, c'est que la mission chrétienne, étant donné qu'elle a été très puissante, a été finalement entendue comme une contrainte, comme une imposition, comme une forme de despotisme. Je dirais que la parole évangélique a été bien souvent, pas toujours évidemment, heureusement, mais bien souvent profanée parce qu'elle s'est transformée en domination. Et finalement, c'est une institution qui est devenue plus ou moins despotique. C'est pourquoi, d'où le destin du Québec, et je pense d'ailleurs que c'est en train d'arriver aussi en Pologne, parce qu'en Pologne, les prêtres ont une puissance sur les gens, ou avaient encore il y a 10 ans, absolument incroyable, pour toutes sortes d'autres raisons d'ailleurs. Les chrétiens n'acceptent plus ça. En tout cas, les protestants, il y a longtemps qu'ils n'acceptent plus ça, mais les catholiques n'acceptent plus ça. Et ils sortent en masse. Ils sortent en masse. Disons que la simple parole d'autorité ne leur suffit plus. J'essaye de vous expliquer la manière dont je vois les choses. Vous me direz après ce que vous en pensez. Il faut dire aussi que c'est le christianisme qui nous a enseigné la liberté de penser. Hein, parce que si nous nous sentons capables de critiquer ce qui nous arrive, même un simple menuisier, comme le menuisier de Picontal en 1845 ou 50, c'est parce que le christianisme nous a inculqué la liberté de penser. Lisez par exemple ce livre extraordinaire de Michel Henry, donc ce philosophe qui travaillait là il y a encore un peu d'années, qui s'appelle « Parole du Christ ». c'est un livre extraordinaire, où il montre bien que, justement, le christianisme nous sort de nos familles, de nos autorités proches, pour nous amener vers le Christ. Et donc, en sortant de là, nous, finalement, c'est notre liberté que nous acquérons. Le sapere aude de Kant devient la maxime des Lumières. Et ça, tout ça, ça vient du christianisme. Donc, il ne nous est pas possible d'envisager la mission comme une parole d'autorité qui tient sous sa domination les corps et les âmes. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas supporter ça longtemps. Il arrive un moment où il y a une révolte qui se produit. Alors, qu'allons-nous devenir là devant ça? Je pense que nous ne pouvons plus accepter d'être des sermonneurs autoritaires. D'abord, on ne nous écoute plus, ça c'est une certitude. Donc on peut toujours sermonner dans le vide, plus personne ne nous écoute. Et je pense que les prêtres d'aujourd'hui doivent être assez malheureux de voir que vraiment ils peuvent parler tant qu'ils veulent. J'allais dire, tout le monde s'en fiche. C'est terrifiant. Je pense que pour eux, ça doit être terrifiant parce que, véritablement, c'est leur mission. Ils ont sacrifié le reste à ça. Je pense que la mission doit changer. La mission doit cesser d'être une emprise pour devenir un simple témoignage. Alors, c'est un véritable renversement. En principe, on sait cela depuis le début du christianisme. L'apôtre missionnaire se doit d'être d'abord un témoin. C'est-à-dire de se donner lui-même en gage, c'est le mot martus en latin, nous disons martyr, c'est-à-dire d'être lui-même la figure de ce qu'il prône. D'être pas seulement un langage, mais d'être la figure de son langage. C'est ça le martus ou le martyr. Et l'Écriture ne dit pas seulement « Allez prêcher dans toutes les nations », mais « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Autrement dit, « Soyez d'abord la figure de ce que vous dites ». C'est ainsi qu'on doit, en principe, montrer la voie. Et je ne doute pas d'ailleurs que de très nombreux missionnaires, dans le passé, et encore maintenant certainement, ont été des véritables témoins de ce qu'ils annonçaient. Quand je vous parle des missionnaires du Japon du XVIe siècle, j'ai été très marqué par ce film Silence, ou bien de beaucoup d'autres, ou du film Mission, par exemple, qui se passe, lui, au nord de l'Argentine actuelle. Bon, ce sont des gens qui étaient effectivement les témoins de leurs paroles. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, en tout cas, nous avons devant nous des sermonneurs, qui sont évidemment ni pires ni meilleurs que d'autres. Je ne les critique pas. Des humains, en somme, de simples humains comme nous, qui d'ailleurs, parfois, malheureusement, sont pires que les autres parce que justement leur autorité leur donne les moyens de profiter des faiblesses humaines. C'est tout le problème des affaires de pédophilie. Alors, je crois que si le christianisme est resté debout au fil des siècles, malgré les énormes problèmes que nous avons connus, qui étaient souvent bien pires que ceux que nous connaissons aujourd'hui, comme vous savez, c'est grâce à l'existence des témoins, c'est-à-dire les grands saints et tous les saints inconnus qui sont certainement légions, tous les saints qu'on n'a jamais donnés comme saints. Il y en a certainement plein, il y en a certainement plein les rues. Et je pense que le christianisme a vécu en dépit de l'existence des sermonneurs. C'est trop facile de dire d'une part les témoins, de l'autre les sermonneurs, parce que les choses ne sont pas si simples. Je ne veux pas avoir l'air de dire des choses trop brutales, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je pense que si nous voulons pouvoir continuer à honorer notre vocation missionnaire, seul le témoin compte. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire le témoin simple, humble, dépouillé, j'allais dire le témoin ordinaire. Celui qui ne va convaincre que par sa propre figure, par son propre comportement. J'ai envie de dire, pour l'instant du moins, taisons-nous, parce que nous avons trop parlé, beaucoup trop. Et trop souvent, beaucoup trop souvent, nous avons seulement parlé. Vous voyez ce que je veux dire? nous avons besoin d'une longue période d'abstinence. Abstinence de parole, abstinence de sermon. Nous avons besoin de laisser voir, de laisser apparaître la figure vivante de la bonne nouvelle. Alors, je vais essayer de préciser un peu ce changement qui nécessite d'abord, à mon avis, deux choses. D'abord, le chrétien doit se convertir lui-même pour pouvoir être la figure de ce qu'il dit. J'allais dire, à la limite, ce sera déjà bien assez. Il va diffuser autour de lui, s'il y parvient, je ne sais pas si on y parvient, ce n'est pas si simple, ce qu'on appelle une aura. Vous voyez ce qu'est une aura. Aristote dit, le bien, c'est ce que l'on a, ce qui attire à soi. Je vous rappelle que l'aura, c'est un halo de lumière qui semble émaner de derrière un corps. Vous regardez, les images montrent bien ça, comme s'il cachait une source lumineuse qui est derrière, qui se trouve derrière, tout en l'exprimant. Il la cache en l'exprimant. Le chrétien est quelqu'un qui devrait laisser entrevoir cette lumière par son simple comportement, et ainsi attirer à lui, un peu comme, vous savez, ce joueur de flûte de Hamelin, qu'on appelle pour attirer les rats, et qui en fait attire les enfants. Incroyable. C'est ça la mission d'aujourd'hui. Vous imaginez, vous allez attirer les rats, en réalité vous attirez les enfants. Ça demande évidemment un effort constant, parce que le chemin vers l'évangile est une gageure pour les pauvres créatures que nous sommes. Et puis c'est un effort terrible par rapport à la facilité incroyable qu'il y a à produire du discours. C'est tellement facile de produire du discours. Regardez, nous sommes entourés tous de gens qui fanfaronnent, des gens qui disent « j'ai fait ça, je ferai ça », ils ne font rien en réalité. Donc, ne faire qu'un avec sa croyance, Ricoeur dit « s'attester soi-même », bon, j'aime bien cette expression, le sujet s'atteste dans la souffrance, dans le soupçon, dans l'adéquation de soi avec son dire. C'est la première chose. Et puis, la seconde chose, qui évidemment est très compliquée, il faut qu'on apprenne la patience. Comme vous savez, vous connaissez l'histoire comme moi, les chrétiens des origines croyaient que la fin du monde était proche. Ils pensaient que ça allait se produire dans les années qui venaient. Plus tard, on a cru que l'an 1000 allait annoncer la fin du monde. Et donc, il fallait convertir en masse, si possible, pour que, quand le Christ reviendrait, il trouve un monde chrétien. Ça a été quand même ça, la gageure. Or, nous sommes obligés maintenant de devenir des témoins patients. C'est-à-dire des témoins qui ne regardent pas le temps qui passe. Il faut laisser la liberté faire son chemin. Alors, c'est évidemment difficile, parce que chaque témoin, même s'il ne convertit personne, parce que certainement il nous arrive de ne convertir personne dans la vie, chacun d'entre nous laisse dans le monde, s'il fait l'effort, laisse une trace dont les germes sont absolument inconnus. Nous ne savons pas ce que nous laissons. C'est un peu comme pour l'éducation des enfants. On ne sait pas ce qu'on... On fait ce qu'on pense devoir faire, et puis après, on ne sait pas ce qui va se passer, mais probablement on laisse des germes. Alors, c'est ça un témoin. Alors, je voudrais poser quelques points à propos de la figure du témoin. D'abord, première chose, trop longtemps, donc la parole d'autorité a cru qu'elle pouvait suffire. Je rappelle quand même que la parole seule, c'est du dogmatisme. Tandis que le témoignage concerne la vie. C'est différent, la vie. C'est comme quand on prétend que ChatGPT est intelligent. C'est ridicule. On utilise le mot intelligence dans le sens anglais. Au sens français, c'est pas ça. ChatGPT n'est pas intelligent, il est rationnel. On dit fort. L'intelligence, c'est la vie. Alors, ici, le témoignage concerne la vie. Et la vie, c'est tout ce que ça comporte, d'hésitation, de doute, d'adaptation. Et l'évangile n'est pas un dogme, c'est une leçon de vie. C'est évidemment très différent. Le témoignage est quelque chose d'existentiel. C'est-à-dire qu'il est, il est d'autant plus variable et d'autant plus évolutif que, d'une part, la vie des hommes est liée au temps et aux circonstances, donc tout change en permanence et nous n'y pouvons rien, et que, d'autre part, le message lui-même ne concerne que les principes premiers, c'est-à-dire les racines. Et les racines se déploient différemment selon les âges et selon les lieux. Comme vous savez, nous sommes à un moment où beaucoup de choses bougent. Alors quand tout bouge et qu'on a l'impression de plus savoir où on en est, il faut laisser tomber complètement tous les symboles superfétatoires et superficiels, tant pis, et il faut aller chercher, creuser pour aller chercher les racines et les agripper avec tendresse pour qu'elles puissent redonner d'autres symboles par-dessus après. Il ne faut pas agripper avec tendresse les symboles, ça n'a aucune importance. Les symboles sont des choses qui ont été produites par le temps à partir des principes. Ce sont les principes qu'il faut agripper. Et le témoignage va s'agripper aux principes. J'ajoute que la vérité n'a pas besoin du témoignage pour exister, parce que la vérité, elle existe par elle-même. Mais elle a besoin du témoignage, de nos témoignages, pour se répandre parmi les autres, parmi ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Alors, la deuxième chose est la suivante. L'énoncé du sermon n'est pas un agir. C'est une théorie de l'agir. L'énoncé est une théorie de l'agir. Et c'est toujours trop raide pour la vie. Je poursuis avec l'expérience de la vie. Le dire est trop inajusté par rapport à la vie. Tandis que lorsque la mission est donnée par un témoignage existentiel, elle peut se traduire en récit de vie. Il peut se traduire en récit de vie. C'est-à-dire que dans ce cas, la mission devient une aventure singulière qui épouse les circonstances. Et donc, de façon toujours inégale, le témoignage est quelque chose de prime-sautier, de désajusté, si vous voulez. L'énoncé de la mission par le témoin est un récit de vie. Un récit de vie qui romance la mission à sa façon. Chacun énonce la mission à sa façon. Parce que la vie est toujours autre chose qu'un dogme. Chaque vie est différente. Comme on sait, l'existence d'un témoin, comme toute existence, est chaotique. Et elle est pratiquement impensée. C'est après qu'on pense. On respire l'air de la mission, on peut exhaler la bonne nouvelle sans y penser, juste parce qu'on la vit. C'est peut-être à la fin d'une vie, qu'on peut distinguer là une annonce de l'Évangile. Comme à la fin d'une vie, on se fait le récit de la vie. Ça a été très très bien décrit par ce dialogue plus ou moins fictif que l'on trouve entre Hannah Arendt et Karen Blixen. Karen Blixen a beaucoup travaillé dans des pages célèbres là-dessus, en disant « la vie est un conte ». Et Hannah Arendt a beaucoup travaillé là-dessus, en reprenant les textes de Karen Blixen, qui étaient un petit peu précédents. Je dirais que le témoignage de l'Évangile, ou la sainteté, si vous voulez, est aussi un conte, d'une certaine manière, c'est-à-dire une histoire pleine de rebondissements et de surprises qu'on ne peut raconter qu'à la fin. Je pense que les saints, les vrais saints, ne dévoilent leur sainteté qu'à la fin, quand les choses ont pris leur sens. Car les choses ne prennent pas leur sens tout de suite, c'est pas si simple. C'est comme ça que se transmet le message de la mission. Non pas par un discours où tout est programmé, théorisé, avec des tenants, aboutissants, numéro 1, numéro 2, ça marche pas comme ça, mais par des événements vivants, où l'existence est inquiète, elle est dangereuse, parce qu'il se passe des choses, parce qu'on est affolé, parce que c'est pas encore transcrit, c'est pas encore connu. Disons que nous portons le message un peu comme un courrier qui ne connaît pas encore son adresse, qui ne sait pas encore à quel endroit il faut qu'il l'apporte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ajoute une autre chose. Le témoignage est une médiation, c'est-à-dire un message, une signature. Le messager est un porteur de sens. Mais, j'ajoute une chose importante. On ne témoigne pas de la propriété du triangle. On ne va pas donné son existence pour des deux faux quatre. On croit toujours, ou on a tendance à croire que, j'ai étudié récemment la vie de ces premiers protestants qui étaient morts en fait en martyr. Et les gens disent qu'il fallait qu'ils soient vraiment sûrs de leur coup pour accepter ça. Et puis c'est pas du tout vrai, c'est exactement le contraire. On ne risque son existence que pour ce dont on n'est pas vraiment sûr. Ça a été bien expliqué par Renan, ça. Si vous voulez des références, après vous me le direz, je vous les enverrai par Internet, par message mail. On ne risque son existence que pour ce dont on n'est pas vraiment sûr. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il faut poser sa vie sur la table. On est toujours dans la solitude. Paul Celan écrit dans un poème « Qui va témoigner pour le témoin ?» Personne ne va témoigner pour le témoin. Il y a là un courage, naturellement, parce qu'il faut avoir du courage pour témoigner, mais il y a aussi un pari, c'est un risque. C'est-à-dire que le témoin dit « Comme je ne suis pas sûr, parce que ce n'est pas de fond 4, hein, ce n'est pas la propriété du triangle, eh bien, je vais poser ma vie en plus sur la table du jeu. » Alors, ça ne signifie pas, il ne faut pas tomber dans l'ornière inverse, et j'y insiste, que la force du témoin, poser sa vie sur la table, est une preuve de la grandeur de ce qu'il fait. Pas du tout. Et on s'est aperçu au XXe siècle qu'il ne fallait pas tomber dans ce travers-là. Pourquoi au XXe siècle ? Au XXe siècle, le témoignage a été profané. Tellement de jeunes nazis, tellement de jeunes communistes avec la casquette étoilée se sont fait tuer pour leurs idées. Et on s'est aperçu après, que leurs idées étaient fausses. On s'est aperçu que Pascal avait tort quand il écrivait ceci. Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Bien sûr que non, c'est faux. Rendez-vous compte, le nombre de jeunes nazis et de jeunes communistes qui se sont fait égorger pour leurs idées. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, on témoigne d'autres que soi, de plus grands que soi, d'inconnus par rapport à soi. On ne témoigne pas de ce qui est connu. Et donc le témoin est forcément humble, parce que le message est tellement grand. Jean-Louis Chrétien, ce philosophe qui est mort récemment, disait, je cite, « Le centre de gravité du témoin ne se situe pas en lui, mais en dehors de lui, dans l'objet de son témoignage. Et c'est pourquoi il y a en lui un essentiel déséquilibre, une fragilité essentielle. » C'est vrai. C'est-à-dire qu'il est toujours, il témoigne pour quelque chose qui le dépasse tellement qu'il ne sait jamais comment se positionner par rapport à ce quelque chose. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être très grand pour témoigner. N'importe quel d'entre nous peut témoigner. C'est le témoignage qui compte, c'est pas le témoin. Bon, j'essaie de vous donner quelques points pour vous dire comment je pense que l'on peut témoigner, ce que ça peut être. J'ajoute encore une chose. La vérité dont on témoigne est une. Elle est inaltérable, mais chaque témoignage est différent, parce qu'il est marqué par la signature du témoin, qui est complètement personnelle. Chacun va témoigner à sa façon, avec son caractère, à lui, avec les événements qui lui arrivent. Tout se passe comme si le témoignage humain de chacun d'entre nous témoignait en même temps de l'infinie diversité des relations entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire que chacun témoigne d'une relation différente. On pourrait dire que, si vous voulez, aucun témoin humain, même s'il est très fort, très courageux, très grand, ne peut épuiser Dieu. Ça paraît évident. Il y a toujours une discontinuité entre le messager et le message. Il y a toujours... Dans le message, il y a toujours quelque chose d'irreprésentable. Le messager sait très bien il n'est pas transparent. Il ne fait qu'indiquer, il montre. Hein. C'est ça, hein, le sens, de donner un sens. Et son geste est toujours maladroit, forcément. Il est distancé par rapport à lui-même, il est décentré, il est toujours plongé dans l'incertitude, parce qu'en fait, il ne sait pas s'il dit la bonne chose, il ne sait pas si son message est juste, il ne sait pas. Et puis, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il communique ou quelqu'un, il se communique lui-même en train de vivre ce quelque chose, ce qui est un peu différent. Hein. C'est-à-dire que il se donne lui-même à son témoignage, et c'est ce don qui va susciter l'imitation des autres. Autrement dit, c'est la manière d'être, le comportement du joueur de flûte de Hamelin qui va pousser les enfants à le suivre. Paul Claudel disait que le pur témoin, s'il existait, il n'existe pas, parce que nous ne sommes pas purs, ni les uns ni les autres, serait celui qui serait littéralement anéanti par son témoignage, hein, qui finalement n'aurait pas d'autre existence que celle qui consiste à témoigner. C'est évidemment impossible. Le témoin entièrement donné, qui est donné à son témoignage, devient un autre homme. C'est ce qu'on appelle la conversion. C'est une renaissance, la conversion. Et c'est de cette manière que le message passe. Il passe d'autant plus qu'il y a d'autant plus de renaissance. Et parce que cette action relève de la liberté, du risque, eh bien, elle est l'expression la plus authentique et la plus persuasive. Je pense, et je vais m'arrêter là pour vous laisser parler, je pense que l'existence peut remplacer le dogme, hein, peut le remplacer. Si la mission signifie la conquête, comme ça a été le cas depuis si longtemps, il nous faut aussitôt abandonner cette ambition. Je pense que nous ne pourrons pas sauver la chrétienté, quand j'entends par chrétienté, la domination du christianisme. Parce que d'abord, parce que nous n'avons plus de désir de conquête, parce que nous n'avons plus le pouvoir de la conquête, ni le désir de la conquête, et parce que nous avons compris les vices de la domination. Mais nous pouvons poursuivre l'histoire du christianisme, qui évidemment n'est pas pareil que la chrétienté. En philosophie, en remplaçant la dogmatique par la phénoménologie, alors ça c'est encore un autre problème que je soulève en terminant, mais bon, on peut en parler si vous voulez, mais... et en pastoral, en remplaçant la dogmatique par le témoignage. Voilà. Voilà la manière dont je vois les choses et j'attends avec impatience de savoir ce que vous en pensez. Merci de m'avoir. Qu'est-ce qui parle en premier? Allez-y.
J'aurais deux remarques, questions. La première, quelque chose que j'ai... parce que, si j'ai bien compris, en quelque sorte, en dépit de la domination du despotisme qui peut montrer l'Église au cours des 16 siècles, elle a tenu, on était tout grâce au témoignage des grands saints. Alors moi j'ai une question, c'est alors par conséquent, avec cette logique-là, comment expliquer l'effondrement de la pratique, particulièrement dans les années 60, enfin vraiment après la Seconde Guerre mondiale et particulièrement dans les années 60, enfin est-ce qu'on aurait arrêté, enfin il y aurait eu beaucoup moins de saints au XXe siècle notamment, enfin dans cette période-là, enfin là il y a quelque chose, enfin j'aimerais bien que vous m'écriviez, enfin que vous me disiez bah, comment vous interprétez et quelle cause selon vous, enfin... Parce que je ne pense pas que ce soit uniquement la fin des grands saints, enfin je ne sais pas. Et l'autre, c'était sur, je pense, sur la profanation des témoignages au XXe siècle par les nazis et les communistes. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse le mettre, enfin, à mon sens, sur le même plan, dans la mesure où, d'une part, j'ai pas longtemps. Enfin, je pense que la plupart déjà des nazis qui sont morts sont sans doute au front dans un contexte de guerre, et je pense qu'on ne peut pas mettre à part aussi l'aspect nationaliste, et enfin, ce n'est pas seulement pour les idées du Troisième Reich, je pense qu'ils étaient datés. Enfin, je pense. Le martyr nazi, vous connaissez Horst Wessel, ce jeune des SA qui était assassiné par la police. Il n'y a pas de. Enfin, et surtout, ils ont surtout tué beaucoup de monde à part ça. Donc, moi, sur la profanation de témoignage, c'est pas comme le saint de Blandine dans son arène qui va se faire manger par les lions. Enfin, c'est un peu différent. Enfin, je sais pas. On se fait assassiner. Voilà. C'est deux remarques.
Oui, c'est pour répondre à votre deuxième question, ce sont quand même des gens qui ont tout sacrifié. Quand vous voyez les nazis de la fin, qui avaient 15 ans, qui partaient pour une guerre perdue, enfin, c'est invraisemblable. On voit Hitler qui les décore, ils avaient 15 ans, 16 ans, enfin, c'était incroyable. C'était quand même des gens qui se sacrifiaient pour un idéal. Enfin, tout ça nous paraît complètement aberrant. Enfin, c'est fou, quoi. Enfin, alors, pour la première question... Je crois quand même, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je crois que ce qu'on appelait la modernité a été un processus inarrêtable, absolument inarrêtable. Et le catholicisme a tout fait contre ça. Et il faut lire le syllabus. Hein, le catholicisme a tout fait pour arrêter le libéralisme, la démocratie, la liberté de conscience d'une manière très très dure, très forte. Hein. Et à travers les écrits des papes. Et ça, je pense que ça l'a complètement anéanti, littéralement anéanti. Les gens préféraient la modernité. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est dans les pays catholiques qu'il y a eu le plus d'effacement de la foi. Dans les pays protestants, la politique et la religion se sont à peu près entendues. Le catholicisme a refusé la modernité pour des raisons qui étaient les siennes. Hein. Je ne suis pas en train de... Mais je pense que ça a énormément joué. Alors, ce mouvement a atteint son acmé juste après-guerre, c'est-à-dire au moment où on a arrêté de penser à la guerre, chacun a pu penser à soi-même, on s'est enrichi. Et mai 68 n'a été qu'un révélateur de ça, ça n'a pas été une cause.
Donc, dans ce cas-là, par rapport aux périodes précédentes sur le fait que la chrétienté tenait malgré tout par rapport au sein, est-ce que c'est moins une défaillance du témoignage, enfin je dirais que, on va dire en quelque sorte, le fossé entre d'une part le développement socio-économique.
Absolument. Absolument.
Donc c'est moins un problème de sainteté.
Oui, parce qu'au 19e siècle, on a eu des très grands saints. Très grand saint, évidemment. Beaucoup de missionnaires, c'était une période extraordinaire pour le christianisme.
On a encore Mère Teresa. Enfin,
absolument.
Mère
Oui, bien sûr.
Ouais, je pense pas qu'on puisse. Quand vous parlez de période d'abstinence, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas d'abstinence. Il y a toujours des grands saints qui annoncent. Et. Enfin, je. Mais je sais pas. Mais peut-être que tu pourras rebondir là-dessus.
Je sais
pas.
Je sais
pas.
Comme je veux bien vous dire, alors, c'était pas du tout le cœur de ma question, mais il me semble que, enfin, peut-être une différence un peu importante entre le martyr chrétien et des gens divers, que ce soit des communistes, des etc., qui sont tout aussi prêts à se faire tuer pour des idéaux, des convictions personnelles, c'est que le martyr chrétien va se faire tuer et est capable de donner encore sa vie dans l'arène pour éviter que le vieux qui meurt à côté de lui se fasse manger par les lions, alors qu'a priori, le nazi et le communiste qui vont sur le front n'ont aucune pitié pour les personnes qui sont supposées tuer. Enfin, je trouve qu'il y a quand même deux manières de mourir et deux raisons de mourir très différentes. Je pense pas du tout que le kamikaze qui se fait sauter pour des idées soit vraiment sur le même plan. D'ailleurs, j'avais une remarque. Vous avez beaucoup insisté, et c'était vraiment très intéressant, sur le fait que la parole ne devait pas rester stérile et que le témoignage était obligatoirement, enfin, devait passer par des actes et par l'engagement d'une vie. Vous avez beaucoup parlé de dogmes et de sermons ou sermonnages. Moi, j'ai quand même un peu une interrogation parce que, enfin, on voit que dans les Écritures, les apôtres qui annoncent, enfin, ils ont vraiment dévolu leur existence entière, mais ils annoncent quand même quelque chose de très clair, qui est un petit peu dogmatique dans la manière dont c'est dit, à savoir le Christ est Dieu, il est mort, ressuscité pour le salut de l'humanité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas, alors sans doute les gens ont besoin d'un témoignage, mais dans une société dans laquelle tout est très relativiste, le fait de simplement arriver en disant « moi j'ai vécu un truc super avec Jésus, je vous conseille, c'est cool », en fait, les gens peuvent se dire « c'est super cool pour toi, mais en fait, moi j'ai d'autres centres d'intérêt ». Enfin, en fait, souvent on se rend compte que parfois, peut-être, ça peut un peu prendre les gens par surprise, mais le fait d'annoncer des choses en disant « en fait, moi je crois que ça c'est vrai », et c'est tout. En fait, ça sauve. Enfin, en fait, les gens ont besoin d'une espèce de dogme quelque part. Et je trouve que ça se voit énormément dans leur manière d'adhérer de manière aussi viscérale à des croyances actuelles, etc., qui sont tout à fait fausses. Donc, je me demande, en fait, si le fait de rester dans un témoignage très, très existentiel, sans vraiment dire cette vérité te concerne et elle concerne chaque homme, je me demande si c'est pas un peu problématique et contre-productif.
Non, mais je comprends ce que vous dites. Il me semble que chacun d'entre nous a sa manière de prendre les choses mais je dis simplement qu'il faut reconsidérer. Et vous peut-être que vous allez agir aussi sur le discours, parce que vous pensez que la simple existence suffit pas. Personnellement, je connais des gens qui étaient incroyants et qui sont devenus croyants, qui sont devenus catholiques parce qu'ils ont vécu avec des employeurs qui vivaient simplement leur catholicisme, oui. Qui traitaient bien leurs salariés, qui sans faire de sermon.
Il faut avoir l'œil pour le voir aussi.
Alors peut-être, non, mais
c'est,
je...
Le problème, c'est que
oui, je comprends.
Très invisible aussi du fait que... Ouais. En fait, parfois, on peut passer sa vie à côté d'un gâteau sans savoir qu'il est gâteau. C'est quand même très perturbant.
C'est vrai, c'est vrai.
Donc, je me dis, peut-être qu'il y a une manière... Alors, évidemment que les actes vont être en premier, mais d'annoncer quand même de manière claire, en disant, je verrai, ce genre de choses.
Oui, mais là encore, c'est une question de circonstances. Chacun sent ce qu'il peut dire, ce qu'il ne peut pas dire, le moment où il faut faire sans dire, le moment. Vous voyez ?
Oui, enfin,
je crois que c'est ça qui est quand même très compliqué.
Merci beaucoup pour votre conférence. Et j'avais bien aimé votre livre. J'ai lu il y a longtemps et je suis tombée tout récemment sur l'horizon problème politique de Daniel Lou.
Ouais, c'est pas mal, hein.
Oui, c'est pas mal.
C'est futé, hein. Ouais.
Ouais. Ça pose le problème de manière. Il me semble assez différente parce qu'il dit qu'il ne faut pas. Enfin, que si on considère le salut des masses, ou du moins la religion des masses, qui n'est pas forcément quelque chose à dénigrer, pour penser qu'une élite qui peut être un signe parmi les nations peut professer. La foi catholique, en étant très minoritaire et très discret dans le monde contemporain qui est actuellement la situation actuelle, parce qu'il y a aussi une valeur à une religion qui était celle de la contrainte, mais qui peut sanctifier même si elle n'est pas totalement intériorisée. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, c'est-à-dire que Daniel considère qu'avec les fondements de la pratique de masse, beaucoup ont pu considérer que l'Église allait devenir un groupe minoritaire qui allait témoigner. Un peu à la manière des juifs peut-être, mais que c'est souvent, il y a souvent la chimère de considérer que ce groupe, parce qu'il est plus restreint, devient plus pur,
ou
du moins
bien
pratique
sûr.
Mieux, parce qu'il est vrai qu'il y a moins de domination. Mais en fait, le catholicisme de masse, c'est un peu une dialectique, et à la fois celui d'une contrainte, mais aussi celui qui permet le plus les possibilités pour que chacun se sente touché. Et donc il ne faut pas dénigrer des formes, peut-être une dogmatique qui peut toucher un plus grand nombre, même si elle a tous ses défauts, ou une chrétienté qui passe de manière un peu, qui passe par le moindre mal d'une domination.
Oui, je comprends bien, vous avez raison, c'est pour ça que rien n'est très simple. Daniel Lou écrivait encore à l'époque du bourracisme. Et donc, vous aviez une religion qui est encore sociologique. Et vous avez raison de dire que quand la religion est sociologique, on ramasse... Pardon, je suis désolée. On ramasse plus de gens dans le filet... Allez, j'éteins tout de suite. On ramasse plus de gens dans le filet, donc il y a plus de gens qui sont susceptibles de... Peut-être que quelques-uns, mais qui sont susceptibles d'écouter le message. Tandis que si on dit, on est un tout petit cercle de purs, on parle à personne, il n'y aura personne, c'est tout. Et d'un autre côté, le christianisme sociologique, vous savez, ça a d'autres inconvénients. Hein.
C'est vrai que nous, on ne l'a pas connu.
Vous ne l'avez pas connu. Vous ne l'avez pas connu, mais moi, je vous assure que c'est quand même pas terrible.
Et du coup, je ne dis pas qu'on idéalise, mais c'est vrai qu'on a connu autre chose.
Oui, je comprends.
Une pastorale un peu trop diluée, ce qui nous a semblé parfois une forme de presque de trahison, parce qu'on se disait ils ont les moyens, par exemple dans des écoles privées sous contrat, pourquoi est-ce qu'ils sont si fades, pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas nous montrer la pureté du message du Christ. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des résistances identitaires de nos jours de la minorité ecclésiale. Enfin, c'est aussi parce qu'on se dit certaines techniques n'ont pas marché, peut-être des techniques qu'on a vécues.
Ça m'intéresse ce que vous dites, parce que moi j'ai vécu tout à fait autre chose, et pour moi, enfin, moi j'ai vécu dans un milieu maurassien, donc si vous voulez, il fallait que tout le monde fasse sa première communion, mais la foi c'était fait pour les femmes et les imbéciles, grosso modo c'était à peu près ça. Donc ce que je vois, c'est la religion sociologique, en fait, je vois même pas ses avantages, alors qu'en fait si, elle doit en avoir aussi, vous avez raison de le dire, mais bon... Il y a des pays où la religion sociologique existe encore. En Pologne, elle existe encore, en partie, hein, en grande partie. Les gens vont à la messe pratiquement sans y croire. Vous savez, quand vous lisez les auteurs du 19e siècle dont j'ai parlé tout à l'heure, la plupart des gens qui écrivaient n'étaient pas croyants, en fait. Et c'était, la religion, c'était bien pour la morale populaire, mais pourquoi pas, hein, mais enfin, c'est un peu dommage que la religion se résume à ça. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a fait l'effacement plus tard ? C'est-à-dire qu'à force, de dire que ça sert juste pour la morale publique ou pour les femmes qui sont un peu idiotes, est-ce que ça finit pas par s'effacer, vous voyez ?
Oui, c'est surtout le jeu, c'est-à-dire qu'il y a la contrainte et puis la possibilité de libération qui fait que tout le monde est parti.
Ben...
C'est vrai que, par exemple, Guillaume Quichet disait dans son livre sur comment on entend la société chrétienne, que les catholiques progressistes avaient quand même un moins bon taux de transmission.
Ah ben oui. C'est son problème à lui, parce que lui, il est vraiment en religion sociologique, Guillaume.
Ah oui,
c'est
intéressant.
Ouais. C'est intéressant, oui.
Marc, je te l'ai dit. Non, vas-y. C'est toujours sur la question du dogme, non seulement de l'annonce d'une vérité, d'un fait historique dont on témoigne et dont on ne peut pas vraiment discuter, on peut dire, moi je pose que Jésus est ressuscité, je l'affirme, tout ce qu'on va. Mais surtout, y a-t-il encore une possibilité pour l'argumentation rationnelle, à partir de ce que la raison peut découvrir d'elle-même, et qui ne conduit pas, enfin, Saint Paul le dirait, mais ne conduit pas forcément nécessairement à la conversion chrétienne, etc., mais qui a une place très importante. Est-ce que, dans votre expérience, y a une place pour cette parole-là dans un monde où la rigueur logique n'est plus vraiment l'apanage des intellects courants. je pense que beaucoup parmi nous, on a vécu les tentatives de discuter certains sujets dans bioéthique avec les grandes difficultés pour en fait avoir un raisonnement construit vis-à-vis des personnes avec lesquelles on parlait. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore une place pour l'argumentation rationnelle sur la foi, sur son importance ?
Donc, j'hésite. Est-ce que vous êtes en train de poser la question, peut-on rester croyant tout en devenant philosophe ?
Non.
Ou bien est-ce que vous êtes en train de poser la question, est-ce qu'on peut encore croire à la loi naturelle ?
Est-ce que... Moi j'y crois, c'est pas la question. C'est plutôt, est-ce que dans le cadre de la mission, il y a un potentiel, mais du coup, dans la potentialité d'aller vers les gens, ou les convaincre, pour le dire brutalement, est-ce que c'est encore une possibilité missionnaire ou celle-ci aussi doit être abandonnée ?
Non, je pense que l'être humain en général ne pourra pas s'empêcher un jour ou l'autre, peut-être vous êtes trop jeune pour ça, peut-être pas, mais un jour ou l'autre de se demander s'il n'y a pas un mystère derrière la porte. Je pense que ce n'est pas possible autrement. Lorsque Malraux disait « le 21e siècle sera religieux, ne sera pas », c'était ridicule. Tous les siècles sont religieux, c'est pas, ça n'existe pas. L'athéisme, c'est un truc qui a été inventé par les Occidentaux, mais qui concerne quelques personnes un peu folles. Je pense que tous les humains ont tendance à se poser la question. Donc, si vous esquissez quelques réponses, vous avez des chances d'être entendu, à condition de le faire intelligemment, au bon moment, et tout ça. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais...
Si, mais dans ce cas, je suis un peu étonné de vous entendre dire ça par rapport à ce que vous avez dit dans votre parole libre. S'il faut arrêter de sermonner, mais en même temps, des gens vont poser des questions et vont être heureux d'entendre les réponses.
On va leur répondre, mais il ne faut pas précéder la question. Parce que si on précède la question, on fait du catéchisme, et le catéchisme a été profané au XXe siècle. Le catéchisme s'est fait communiste. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc le témoignage consiste avant tout à susciter les questions.
Exactement. Oui ?
C'est moi qui regarde.
Oui.
C'est vraiment derrière, donc je suis pas sûr. Au tout début, vous parliez du fait que l'apanage de la mission, ça doit être donc de vivre comme le Christ, d'être à son image.
Si on peut.
Ben c'est ça, c'est la question. C'est qu'en fait,
essayer à tout prix.
Est-ce que cette idée-là ne risque pas aussi de pousser les chrétiens à être dans l'éternelle attente de se perfectionner soi-même avant d'aller vers l'autre? Parce que j'ai l'impression quand même qu'on a tendance à beaucoup appeler à la mission, mais de dire, le fait de se dire qu'on n'est pas encore prêt intérieurement, ou qu'on vit pas encore avec une idée de vie suffisamment éclatante et rayonnante avec un avec Cora, ben on a tendance à pas faire le premier pas. Enfin moi je vois et c'est mon cas premier, hein, d'avoir eu tant de mal à sortir de sa prière intérieure pour aller vers l'autre, parce qu'on se dit on n'est pas capable, il faut qu'on soit beaucoup plus, enfin je ressens pas encore à Jésus quoi.
C'est exactement pour ça que je parlais tout à l'heure de Karen Blixen et sa discussion avec Anna Arendt, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre d'être parfait pour commencer à sortir de chez soi. Il faut tout de suite vivre tout en essayant d'être le meilleur possible, et pas se demander si on est saint tout de suite. C'est tout à fait à la fin de sa vie qu'on se dira peut-être j'ai été un peu saint, ou c'est les autres plutôt qui vont vous le dire, peut-être. Mais il ne faut pas s'en occuper, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on s'en occupe, on pense qu'à ça, et dans ce cas-là, on devient une sorte de... Je ne sais même pas comment on dit, une sorte de théorie qui marche, quoi. Non, je pense qu'il ne faut pas s'en préoccuper de ça. Il faut juste avoir un chemin, et puis il ne faut pas se demander en permanence si on a bien fait, s'il faut encore faire ça, s'il faut... Je crois qu'il faut peu se poser de questions, comme ça, à mon avis, hein. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Si, mais du coup, ça veut dire qu'on a... Comment est-ce qu'on peut avoir un esprit critique
vis-à-vis de soi-même?
Bah oui, si on ne se pose pas la question.
On peut bien de temps en temps faire un examen de conscience,
oui.
Mais pas tout le temps.
C'est ça, oui.
Pas après chaque action.
Vous
voyez ce que je veux dire? Il y a une question, c'est toujours pareil, une question d'équilibre, quoi. Mais il ne faut pas trop se préoccuper de ça, il faut vivre, et puis voilà, la vie c'est assez compliqué comme ça, on fait ce qu'on peut. Vous savez, moi je pense que l'éducation c'est beaucoup comme ça, et je pense que la vie c'est un peu... C'est la chose la plus compliquée, c'est l'éducation. Et après, quand on voit ce que c'est derrière, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ça. Il ne faut pas tout le temps être en train de se demander si on a bien fait. Il faut faire, et puis il faut faire au mieux. Et puis souvent, on a les yeux fermés quand on avance, mais on avance quand même. Vous voyez ? Il ne faut pas attendre d'avoir les yeux complètement ouverts pour avancer, sinon on n'avance jamais.
Alors pourquoi faire un repli sur soi, là, quand vous parliez de silence ?
Bah de temps en temps, il faut se demander si on a bien fait, surtout quand les choses sont très très compliquées. Mais il ne faut pas que ça dure tout le temps. C'est compliqué, je reconnais que... C'est dur de vivre. Oui ?
Il y avait quatre fouilles, justement. Il y a ceux qui sont là. Et
Bomboline,
j'aimerais dire.
Moi, j'ai une toute petite question, parce que en fait, pourquoi est-ce que vous avez dit que les chrétiens avaient été persécutés, notamment à cause de cette prétention à une vérité, le fait de dire que eux, c'est une vérité universelle? Et ce qui m'interroge, c'est que je me dis qu'en fait, on peut avoir cette prétention et juste passer pour des idiots, mais sans susciter la persécution. Au sens où, en fait, s'il y a des gens qui arrivent en disant « moi, j'ai la vérité », on va se moquer d'eux et on va leur dire « vraiment mignon, les gars », mais c'est tout, sans aller jusqu'à ce de déchaînement de violence aussi qu'ont suscité les chrétiens, et de manière assez constante.
Non, mais là, vous parlez de ce que j'ai dit tout à fait au début, à propos de, ouais, notamment des... C'est la même chose qui est arrivée chez les Romains de Dioclétien. Prenons Dioclétien, il y en a eu d'autres, mais... Il y a eu énormément de persécutions, et qui est arrivée chez les Japonais. Et je dis ça parce que souvent on se trompe, on s'imagine qu'ils ont persécuté les chrétiens parce que c'était pas le bon Dieu. Mais c'est pas du tout ça. C'est parce que les chrétiens ne respectaient pas l'empereur. C'était vrai chez les Romains, c'était vrai chez les Japonais. Parce qu'ils n'obéissaient pas à la bonne autorité. Mais les Japonais comme les Romains se fichaient complètement qu'il y ait plusieurs dieux, qu'on apporte un dieu de plus, ça en faisait un de plus, ça n'a pas d'importance. Ce sont des gens qui étaient syncrétistes. Les Romains étaient syncrétistes, les Japonais étaient syncrétistes, ou le sont encore. Voyez, c'est simplement pour dire ça, pour essayer d'expliquer un peu pourquoi la persécution. Je ne sais pas si je...
Si,
du coup, il me semble que peut-être ce que vous pointiez, peut-être sans le dire, mais c'est qu'il y a aussi une dimension subversive du christianisme au départ. C'est-à-dire que toute une partie des religions sont là pour que la société tienne.
Oui, bien sûr.
Et le christianisme arrive quand même à l'intérieur de l'Empire romain comme quelque chose qui vient subvertir les fondements.
Exactement, parce qu'on n'obéit plus.
C'est la même chose au Japon. En fait.
Oui, c'est ça, parce qu'on n'obéit plus à l'empereur. Et puis, parce que la religion judéo-chrétienne est la première et la seule, à ma connaissance, au monde, qui en même temps entraîne avec elle une morale. Or, dans toutes les autres parties du monde, c'est le chef politique qui fait la morale. Les religions, c'est des prêtres, des prêtresses qui chantent des chants, et puis c'est tout. Et là, c'est une subversion, vous voyez ?
Mais précisément...
D'ailleurs, vous êtes aperçu...
Je pense qu'une des parts de la subversion, c'est de prétendre croire à une vérité qui dépasse les fondements
qui est en même temps.
C'est la réponse du Christ à Pilate.
Oui. Qu'est-ce que la vérité ?
Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, ce qui n'est pas la posséder, écoute ma voix. Je crois que là, il y a quand même quelque chose dans cette rencontre avec Pilate qui dit beaucoup de...
Vous êtes aperçu qu'aujourd'hui, c'est Macron qui fait la morale. La morale est dictée par des comités d'éthique qui sont constitués de multiples personnes. C'est plus la religion qui fait la morale, c'est l'État. C'est-à-dire qu'on est revenu à un État hanté.
Dogmatique.
Oui.
Juste une question. Et après, dans le degré sur le témoin, on est appelé à vivre, la perspective est peut-être plus individuelle, même si on fait une sorte de communauté de témoins là-dedans. Mais ma question porte davantage sur cette remise en cause peut-être de l'institution, parce que si elle est despotique, il faut aussi contester certaines structures, ou repenser, en tout cas, peut-être réinventer la manière de faire communauté, de faire l'église.
Moi, je suis très critique de l'institution. Je pense que les prêtres ont eu trop de pouvoir. Et je pense qu'actuellement, ils sont... Je suis désolée, père, de parler devant vous. Je pense que vous allez comprendre ce que je dis et que là, si vous n'êtes pas d'accord, on peut discuter. Mais je pense que vraiment ils ont eu trop de pouvoir et qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Alors je sais pas comment ça va fonctionner après, parce que si on prend des pays comme les nôtres, on voit que les prêtres sont très âgés, donc nécessairement ils vont disparaître, mais les jeunes prêtres qui arrivent sont très traditionnalistes, donc comment vont-ils se comporter, j'en sais rien, ils vont sans doute être assez dogmatiques, mais moi, je pense que c'est pas une bonne affaire d'avoir des prêtres qui ont trop de pouvoir. Je suis assez... mais au fond, je ne sais pas s'il faut trop m'écouter parce que je suis assez protestante quand même.
Parce que donc, peut-être d'avoir des petits témoins, que nous soyons des témoins chacun dans notre lieu quotidien, c'est aussi une manière autre de concevoir une église un peu archipélagique, ou en tout cas, je ne sais pas, le fait de pouvoir se retrouver dans des petites communautés qui seraient implantées au cœur de la vie des autres, enfin, ça serait une autre manière de... Mais bon, enfin, c'est pas très...
Du genre Rodrère, quoi. Rodrère. Oui. Non, mais on peut imaginer que l'Église suive des chemins qu'elle n'a jamais suivis jusqu'à présent. On peut imaginer que des grands saints débarquent, comme c'est arrivé dans les siècles précédents, qui changent des choses. Moi, j'ai beaucoup d'espérance. Puis je pense que les gens qui arrivent derrière moi auront d'autres idées que je n'ai pas eues ou que d'autres n'ont pas eues et feront d'autres choses. Je suis persuadée que ça va tourner. Enfin, vous voyez, je pense pas du tout que tout va s'arrêter, que c'est la catastrophe, absolument pas. Mais je pense qu'on peut pas imaginer tout ce qui peut se produire d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, les clercs ont trop de pouvoir. Ça, c'est certain, à mon avis. Oui ?
Il y a quand même une question que je me pose vis-à-vis de ce que vous avez dit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre société, enfin, française en tout cas, occidentale, on n'a pas besoin, enfin la jeune génération n'a pas besoin du dogmatisme et ne le recherche pas, justement. Je pense aux traditionalistes qui ont beaucoup de succès, l'islam aussi, chez les jeunes.
Oui.
Comment est-ce qu'on interprète ça? Comment vous l'interprétez?
Ben parce que, sans doute parce qu'il y a un vide. Quand il y a un vide, on ne peut pas vivre dans le vide. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la religion, ça n'existe pas, une société datée, une société de vide. Donc certainement, il y a une recherche, mais c'est un peu dommage, parce que C'est pas le dogme qui est la solution. Ce serait plutôt la prudence, la recherche personnelle. Mais effectivement, vous avez raison, il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on peut expliquer que des gens se convertissent à l'islam, et même des filles, ce qui est quand même incroyable, parce que comment une fille peut-elle se convertir à l'islam? Mais vous avez raison, il y a des choses comme ça qui se produisent. C'est la réponse au vide, je pense.
Est-ce que du coup votre discours pourrait être scindé en deux, c'est-à-dire que ce que vous avez dit s'applique jusqu'à un certain âge, les boomers par exemple, et en dessous des boomers, et, enfin, en tout cas une jeune génération qui n'a pas connu toutes ces règles,
ouais.
Toute cette pesanteur, enfin, je pense que c'est un peu ce qui est ressorti de ce qu'on a dit. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ça, de règles un peu aveugles d'une certaine manière, mais en tout cas qui nous agrègent aux autres et qui nous donnent une direction, bon, qui...
Oui, enfin, quand vous voyez les scandales de pédophilie et l'état de l'Église vaticane, c'est pas une histoire de boomer, c'est une chose qui existe aujourd'hui même. Hein. Quand vous voyez la manière dont l'Église a traité les questions de pédophilie, c'est quand même assez triste. On a fait 2-3 réunions, on a parlé avec l'air de s'en foutre, excusez-moi, hein. Et puis c'est fini, on n'en parle plus. Tout ça est quand même...
Ça, pour le coup, c'est quand même...
C'est pas vrai.
C'est quand même pas vrai. Si je peux me permettre. Et ça prend beaucoup.
Ben, en tout cas, c'est l'impression qu'on a quand on est à l'extérieur, franchement.
Ouais, il faut venir bien à l'intérieur.
Ouais, ouais, ouais.
Il n'y a pas que des hublots qui ont été ouverts dans les portes,
il y a aussi des vraies choses qui ont été faites.
Dans la durée, franchement.
Et donc, est-ce que vous pensez aussi, comme monsieur, qu'il faudrait avoir un discours plus dans la découverte de certains dogmes, parce qu'il y a eu trop de vide?
Mais moi, je ne crois pas à l'opposition du dogme et de la polarisation du témoin. En fait, je pense même que l'apparition du dogme vient de la polarisation des apôtres envers le Christ. Si on a énoncé des dogmes, c'est parce qu'on ne voulait pas perdre ce Christ qui avait été annoncé dans l'Évangile. Si avec les siècles, à un moment, on va devoir dire à Nicée, se rassembler pour dire non, la véritable divinité du Christ doit être défendue, si ensuite on défend sa véritable humanité, c'est au nom de cette polarisation des témoins envers le Christ. Alors après, ça n'empêche pas, comme vous l'avez très bien dit, quand une institution cède en fait à la tentation du pouvoir parce qu'elle est en position de pouvoir, il y a de graves ambiguïtés. Mais je pense que la source n'est pas dans l'opposition du dogme et du témoignage, elle est au fond, et je pense que c'est pour ça que beaucoup de jeunes ont tellement besoin de ça, et ils ont bien raison, c'est qu'on leur a trop peu enseigné toute une série de vérités profondes qui sont d'abord des vérités sur le Christ, et qui ensuite, parce qu'elles les polarisent, leur permettront ensuite, en laissant leur vie être conformée au Christ, et ensuite pouvoir témoigner de lui. Mmh. Une des choses qui me marque, c'est les Actes des Apôtres, qui est vraiment, si on peut dire, la charte de la mission dans l'Écriture sainte. Et ça part de saint Paul qui part, alors c'est le programme des Actes des Apôtres, il est indiqué dès le début, à Jérusalem, en Galilée et jusqu'au bout de la terre. Donc comme ça, c'est déjà bien clair. Et saint Paul, quand il part pour enseigner, au départ, de fait, il est tout feu tout flamme, il essaie un discours à Athènes qui ne marche pas très très bien. Et puis au fil du temps, et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin des Actes, on va avoir à deux reprises le témoignage de sa conversion. C'est-à-dire Acte 9 est repris en Acte 22 et en Acte 26. À chaque fois, Paul re-raconte cette polarisation vers le Christ de manière nouvelle, selon le contexte où il est. Ce que je trouve très intéressant, c'est justement celui dont on fait celui qui aurait transformé le christianisme en énonçant des tas de choses sur le Christ, en fait, est celui qui, au fil de ce récit, se laisse polariser dans son témoignage et qui, à la fin, est dans les liens. Enfin, dans les Actes des Apôtres, c'est saint Paul dans les liens, alors à Rome, au cœur de l'Empire, mais pas comme une figure victorieuse, comme une figure qui est en même temps. Donc, voilà, moi j'ai du mal à opposer les deux et je pense qu'on ne gagnera pas à opposer les deux. Mais en revanche, je pense que l'humilité, oui, nous en avons besoin. Voilà.
Qui veut parler ?
Parce que vous aviez soulevé rapidement un sujet assez énorme, mais qui n'a pas rapport à l'Église et l'Église moderne, sur peut-on encore croire à la loi naturelle. Et je pense parce que par rapport à la récente publication de Lancaster pour la doctrine de la foi, dignité, signifie l'État, où là, bah, on voit bien que bah, par rapport au syllabus où on jetait l'anathème, on va dire, sur la doctrine de l'homme, là, on voit bien, enfin, j'ai pas tout lu, mais un des titres, plutôt vers la fin, donc je sais pas encore, sur la dignité humaine, un peu fondement des droits et des devoirs, on parle quand même des devoirs, mais vraiment les droits enfin, de l'homme, on a l'impression quand même que l'Église, bah, c'est quand même rallié aux droits de l'homme et cherche un fondement.
Ah bah complètement, humaine, complètement.
Mais alors, par rapport à cette loi naturelle, est-ce qu'il faut changer de logiciel et complètement. Enfin, est-ce que peut-on croire encore à la loi naturelle? C'est énorme, mais en fait, c'est la loi naturelle. Parce que Pierre Manon, il est plutôt. Enfin, il défend un peu.
Bah, Pierre, il est plus traditionnaliste que moi.
Mais c'est pour ça que ça m'intéresserait d'avoir votre.
Ou je suis plus protestante que lui, on peut dire ça comme ça. Mais au fond, on est quand même d'accord. Oui, je vois le texte dont vous parlez. Je ne vois pas pourquoi on serait obligé d'abandonner la loi naturelle. Et d'ailleurs, lorsque l'Église rejoint les droits de l'homme, c'est superficiel par rapport à la loi naturelle. La loi naturelle est plus profonde. L'Église pouvait très bien être contre les droits de l'homme tels qu'ils étaient énoncés et continuer à croire, à tenir à la loi naturelle dont elle estimait qu'elle était différente. Il est vrai que depuis Vatican II, l'Église a entièrement rejoint ce qu'on peut appeler la modernité. Alors, pas encore la postmodernité, parce que la postmodernité, c'est encore autre chose. C'est le mariage entre deux personnes du même sexe, c'est le changement de sexe, c'est un certain nombre de choses. C'est encore un cran au-dessus. Mais alors, pour reparler de la loi naturelle, le problème, c'est que la loi naturelle, bien sûr qu'elle existe, mais on ne peut plus dire, on ne peut plus en parler en tant que dogme. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai parlé du dogme et de la phénoménologie. On peut en parler en tant que phénoménologie. C'est-à-dire que la loi naturelle, c'est finalement ce que tous les peuples acceptent de dire de façon positive, notamment sur la morale. Le fait que le bien, c'est le lien, c'est-à-dire la paix, la solidarité, l'amitié, etc. Et le mal, c'est la séparation, diabolos, donc la guerre, la haine, etc. Là, tout le monde est d'accord. On peut dire que ça, c'est la loi naturelle. Mais on peut difficilement dire que... être contre l'avortement, c'est la loi naturelle. Parce que nous sommes les seuls à ne pas accepter l'infanticide. Nous, seuls, nous les judéo-chrétiens, c'est bien dans l'épître à Diognète. Vous voyez ? Est-ce qu'il est possible de dire que la loi naturelle serait quelque chose que nous seuls disons ?
Parce que après, l'idée, c'est que...
Compliqué, quand même.
La postmodernité, la modernité, peut-être que c'est pas forcément anodin que la postmodernité avec la modernité, dans notre mesure, peut-être en sorte... pousser au paroxysme et pousser les droits de l'homme dans sa logique jusqu'au boutiste en quelque sorte, où bah, au départ les droits de l'homme c'est des choses très bien, c'est une belle expression, enfin, bref tout ça, mais on arrive à un
point. Vous dites que c'est très bien, mais votre arrière-grand-père l'aurait pas dit.
Mais attends, mais la postmodernité où là on va commencer à encore toujours plus de droits, une sorte un peu d'inflation des droits qu'on va demander, et je me demande, c'est. En soi, on pourrait peut-être presque se contenter de la loi naturelle, enfin, je ne sais pas.
Ben non, parce que c'est trop général. C'est trop général de dire le bien, c'est le lien, l'amitié, la paix. Après, quand on arrive dans les cas concrets, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide ? Vous voyez, regardez le suicide assisté, par exemple. Regardez.
Enfin, non, mais...
Comment ?
Enfin, j'ai l'impression qu'on en décide, qu'on s'en est passé un peu là.
Ah mais non, pas du tout. Il y avait toujours des lois qui précisaient les choses.
La logique un peu qui délimite tout ça. Avant le 12e siècle, 13e siècle, je ne sais pas.
Mais non, mais c'était, attendez, je ne comprends pas ce que vous dites.
Non, mais
en Occident, il y avait des lois, et en Chine, il y avait d'autres lois.
Oui, mais à la logique des droits de l'homme. Enfin, non, parce que c'était des droits au sens de on a aussi des droits parce qu'on est anglais, donc ce n'est pas des droits qui s'appliquent à l'universalité, c'était les droits du peuple anglais, des anglais, enfin, des français, et c'est un peu une problème naturelle qui est. Et dans la naturelle, il y a aussi l'idée vraiment d'universalité. On prend un individu abstrait et non pas un individu concret.
C'est le christianisme qui a inventé cette universalité.
Oui, c'est vrai.
C'est pas le christianisme, l'universalité. Il n'y a plus grec ni juif, ni malheureux, ni jeune femme.
Ouais, mais que faire pour enrayer la machine de
Quelle machine vous voulez enrayer?
La poste moderne.
Comment?
La poste modernité.
Ah oui, ça c'est très compliqué à enrayer, ça je suis d'accord. Mais il faut se battre et on y arrive. Hein. Je vous donne un seul exemple de mon optimisme profond. Vous avez actuellement des groupes de LGBT++ qui passent dans les classes de CM1 hein, en disant « Toi, si t'es un garçon, c'est juste parce que tes parents avaient envie d'avoir un garçon, mais en fait, t'es peut-être aussi bien une fille. Donc, si t'as envie de changer demain matin, tu commences par changer de prénom, changer de vêtements, et puis on va te couper les seins si t'es une fille, pour l'instant, dans quelques années. » Et ben, on peut se battre contre ça. On se bat contre ça. Moi, j'appartiens à un groupe qui... Et on se bat bien et on arrive à des vrais résultats. Parce qu'on montre que, ne serait-ce qu'avec une morale conséquentialiste, alors là, on peut pas brandir Jésus-Christ, là, ça ne marchera pas. Hein. Mais ne serait-ce qu'avec une morale conséquentialiste, en montrant qu'on fabrique du malheur, et avec l'aide de beaucoup de psys, parce qu'en fait, dans le groupe où je suis, il y a à peu près 3% de cathos, dont je suis, et puis les autres sont tous des psys républicains, en général plutôt agnostiques. Je ne dis pas athées, parce que les athées, c'est rare, les agnostiques. Mais on arrive à quelque chose, on arrive à se battre. Donc, si vous voulez, quand il y a des choses trop excessives, on arrive à les réduire. Donc, mais il faut se battre, hein, parce qu'il y a de l'idéologie derrière. Hein. Mais on y arrive. Il ne faut pas être pessimiste. Faut pas être pessimiste, mais non, ce n'est pas moi. Mais...
Et sur cette belle note. Ouais.
Ben merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup. C'était très intéressant. Bon, effectivement, on aurait pu continuer à discuter quasiment sans fin.
Ah, bah oui, c'est intéressant.